Bonjour à toutes et à tous. Vous avez certainement reconnu la petite musique de Charlie Brown qui annonce notre émission au fil des pages. Il est 16h58. Oui, ça fait deux émissions qu'on démarre avec deux minutes d'avance. Nous sommes le mercredi 28 juin 2023. Vous écoutez au fil des pages. Vous êtes sur Radio Libertaire. Donc, tout va bien. Merci de nous rejoindre sur ces ondes qui, je l'espère, sont vos ondes favorites. Vous avez peut-être écouté hier matin notre deuxième émission consacrée à la musique classique, un classique s'il vous plaît, de 10h30 à 12h30. Nous avions eu l'occasion de recevoir, entre guillemets, Berlioz, Vincent Dindy et Paul Ducas. On vous retrouvera au mois de juillet avec notamment Clara Schumann. Alors aujourd'hui, nous sommes présents, Frédéric, peut-être pas Dominique parce qu'elle a des problèmes de communication, c'est ça le fin fond de la campagne, Marie, Francis, et aujourd'hui notre invitée, Laureline Fontaine. Alors avant de parler de nos lectures, Frédéric, est-ce que nous avons des annonces à faire ? Pas d'annonces particulières, donc très bien. N'hésitez pas à nous écrire. Vous nous écoutez, c'est parfait, mais n'hésitez pas à nous écrire. Notre adresse postale, Librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e. Et le titre de l'émission, c'est bien évidemment « Au fil des pages ». Alors, au programme de cette émission, la bioéthique avec Marie, la société de consommation avec Fred, et puis plus léger et pré-estival, je vous parlerai de deux livres édités par les éditions L'Échappée, l'un d'Eugène Dabi et l'autre d'André Varneau. Laureline Fontaine, professeure de droit constitutionnel, nous retrouvera pour échanger sur le Conseil constitutionnel dont on a tant parlé ces derniers mois. Et puis peut-être que Dominique nous rejoindra, c'est l'incertitude du direct. Alors, premier temps de l'émission pour ouvrir le débat, comme d'habitude. Alors, aujourd'hui, la bioéthique. Elle est apparue dans le débat public voici environ 40 ans, je me rappelle, être étudiant en droit et on nous enseignait cette problématique en disant c'est un droit qui se crée, c'est vrai. Un comité lui aussi a été créé à cette occasion et aujourd'hui un bilan est fait et publié aux éditions Odile Jacob. Alors Marie, de quoi s'agit-il ?
Oui, alors en fait, ce fameux comité consultatif national d'éthique a été mis en place le 2 décembre 83 sous la présidence de François Mitterrand. Et en fait, il a pour mission aujourd'hui de donner son avis sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevées par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé, ou par les conséquences sur la santé des progrès de la connaissance dans tout autre domaine. Donc ça, c'est la définition qui a été redonnée en fait en 2021. Donc en fait, les objectifs de ce comité consistent à réfléchir sur en fait les avancées de la science, de la technologie, du progrès en général, en déterminant l'impact en fait qu'elles auront sur l'homme et l'environnement. Donc, en effet, au début des années 80, la gauche nouvellement au pouvoir avait parfaitement saisi cette nécessité de faire évoluer la recherche scientifique dans le bon sens, c'est-à-dire en la rendant plus utile à la société. Parallèlement, les débats politiques et sociétaux étaient vifs à cette période, au début des années 80, concernant notamment la procréation avec les fameux bébés éprouvettes. Il y a eu la naissance de la petite Amandine en 82, le premier bébé éprouvette en France.
À l'hôpital Béclère, d'ailleurs, à Clamart.
Oui, bien sûr. Donc ça a fortement en fait animé le débat en matière de bioéthique. Et en fait, ces questions-là, qui portaient sur la procréation, donc, allaient déboucher bien sûr sur un enjeu majeur, à une période où la question des troubles de la fertilité et de la fécondation chez les femmes était prise au sérieux par la communauté scientifique, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit bien que la fécondation in vitro, elle s'est fortement développée. Mmh. Et bien au-delà donc, du rôle d'utilité publique qui incombe aux chercheurs, en fait, le gouvernement de Mitterrand souhaitait aussi que ces derniers puissent soumettre aux plus hautes instances étatiques les espoirs, les craintes et les controverses qui découlent de l'évolution des connaissances. Et c'est pour cela que ce comité consultatif est constitué de profils très variés, avec aussi bien des professionnels de santé que des universitaires, des élus, ministres et des juristes, bien sûr. Alors, il faut savoir qu'en 1994, il y a eu des lois de bioéthique, en fait, qui ont commencé à apparaître, mais plus pour, en fait, essayer de prévenir les dérives en matière de médecine. Voilà, c'était plus à ce niveau-là. Mais le comité, par contre, n'a pas de... Comment dire Enfin, voilà, il n'a qu'un rôle consultatif. C'est quand même, c'est pas lui qui va décider de ce qu'on fait. C'est pas lui qui va proposer les lois à l'Assemblée, etc. Donc, cet ouvrage collectif fait état en fait de tout un tas de témoignages, d'avis et de regards d'un certain nombre de présidents d'honneur de ce comité et puis d'anciens membres. Donc, quant à la mission, l'organisation et les débuts. Et aussi les champs d'intervention donc, du comité à l'échelle nationale et internationale. Il faut savoir que à l'échelle internationale, en fait, la France, quand même, elle a été assez précurseur, en fait, car ce comité consultatif n'existait pas dans les autres pays. Mais bien sûr, il reste encore beaucoup de progrès à faire. Et donc, dans cet ouvrage... En fait, il y a tout un tas de recensements, en fait, des grandes thématiques abordées et travaillées pendant les 40 ans, justement, de travail. Donc, à savoir des questions concernant l'IVG, la procréation médicalement assistée, le don, la transplantation d'organes, le handicap congénital, également aussi l'euthanasie et aussi, bien sûr, là depuis peu, la télémédecine qui s'est fortement développée avec la pandémie de Covid, l'intelligence artificielle aussi, qui est vraiment au cœur de nombreux débats actuellement. Et en fait, donc, cette bioéthique en France, donc, voilà, elle s'est beaucoup concrétisée et ses contributions à la société ont été assez considérables. Beaucoup de sujets restent encore à traiter, notamment concernant le suicide assisté. Il reste encore beaucoup de choses à voir. Et je dirais que, en fait, la bioéthique, en fait, aujourd'hui, elle fait référence à une grande citation du physicien Albert Einstein qui disait qu'en fait, sans science, sans conscience n'est que ruine de l'homme. Une citation qui était attribuée à la base à la création de la bombe atomique, en fait, car Albert Einstein, grand pacifiste qu'il était, n'a jamais pu vivre en fait avec l'idée que tous ses travaux sur la bombe atomique, etc., est découlée sur les massacres terribles qu'il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais en fait, cette citation, pour moi, elle a tout son sens en fait en matière de bioéthique, car en fait, lorsqu'on saisit les grands enjeux de la bioéthique, c'est en fait en toute conscience que l'homme doit pouvoir faire avancer la science. Donc, c'est tout à fait, enfin, pour moi, cette citation d'Albert Einstein, elle fait bien un écho à tous les travaux de bioéthique passés et à venir, car ce comité consultatif national, il travaille encore et toujours, bien au-delà de ce qu'il a pu faire. Il essaye de se poser en médiateur entre la communauté scientifique et la société. Il est présent dans un certain nombre de régions. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits dans des lycées, dans des conseils municipaux, pour vraiment sensibiliser les gens justement à la question de la bioéthique, et notamment quand les grands... Et comment dire, les grandes lois, telles que l'euthanasie, qui seront peut-être votées récemment, nous l'espérons quand même, sont posées sur la table.
Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la science progressant en permanence, c'est toute la question de savoir si le droit suit la science ou si le droit peut la précéder. Et toutes les lois qui ont essayé de limiter les progrès de la science se sont retrouvés dépassés par la réalité, surtout à un moment où on est dans une approche internationale.
Oui.
On peut empêcher la procréation dans tel pays, c'est pas grave, il suffit de passer la frontière, et là, de l'autre côté, c'est du domaine du possible. L'autre véritable problème, c'est l'inégalité devant la science, devant les progrès, ceux qui n'ont pas l'argent, ceux qui ont l'argent, et on a le problème des mères porteuses, on a toute une série d'autres questions qu'on doit traiter. Et puis, tu parlais de science sans conscience n'est que ruine
de l'homme.
C'est Rabelais qui avait dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et c'est toute la question. Il y a Einstein,
mais
il y a Rabelais qui avait à l'origine ce grand humaniste, Rabelais, dont nous reparlerons certainement une autre fois. Alors, ce livre est important. Il est, je crois qu'il y a trois auteurs.
Alors, c'est un collectif qui a été rédigé donc, sous la direction de Jean-François Delfraissy, Emmanuel Didier et Pierre-Henri Duet. Donc, le titre, 40 ans de bioéthique en France, le Comité consultatif national d'éthique de 1983 à 2023, aux éditions Odile Jacob, est paru en février.
Donc, il est très intéressant bouquin parce que il nous permet de réfléchir sur l'évolution de la société, l'évolution de la science, et de faire se confronter différentes sensibilités politiques, philosophiques, religieuses, dans un espace de dialogue qu'est le Comité consultatif national d'éthique.
Un espace de dialogue et de médiation.
Voilà, oui, tout à fait. Important. On retrouve parmi les auteurs, on retrouve des médecins comme Mattei. On retrouve des juristes comme Magnard, on retrouve Changeux, on retrouve des philosophes. Enfin bon. Donc c'est vraiment un ouvrage tout à fait intéressant. Il est sorti chez Odile Jacob,
Odile Jacob.
Récemment. Très bien, merci. Alors, avant de présenter un autre livre qui s'appelle « La fabrique du consommateur », Frédéric, une chanson prémonitoire de Boris Vian, « La complainte du progrès ».
Autrefois pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteaux, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux. Et nous serons heureux. Autrefois s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant que voulez-vous, la vie est si chère, on dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire-godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chauves-savates, aux canons à patates, à l'éventre tomate, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on s'aide, car il faut qu'on s'entraide. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois.
Alors donc, Frédéric, en ces temps d'inflation, on consomme tout de même. Comment ce consommateur est-il conçu ?
Alors, je vais vous parler en effet de la conception de la fabrique du consommateur. C'est un livre, c'est intéressant. Alors moi, pour ma part, la société capitaliste a créé la société de consommation en fait. Bien qu'il y ait depuis plusieurs années des coopératives, des AMAP, le marché de l'occasion, qui se sont bien développés pour certains de nos achats. Mais nous sommes des consommateurs contraints. J'ai voulu savoir ce qu'était la société de consommation, la société marchande. Pour moi, tout commençait dans la fin des années 60 avec l'implantation des premiers super et hypermarchés. J'avais tout faux, je l'avoue. Je pensais que cette société était en gestation grâce à des têtes pensantes, du marketing, depuis l'après-Seconde Guerre mondiale. Là encore, j'avais tout faux. Ou du moins, partiellement. Ouf, l'honneur est sauf. L'ouvrage dont je vous parle est une histoire avec un grand H de la société de consommation avec une chronologie, des sources, des noms, des lieux, le contexte sociologique, les us des consommations, de consommation antérieures à la société marchande. Anthony Galuzzo, maître de conférence à l'université de Saint-Étienne, en réalise une excellente synthèse dans son livre « La fabrique du consommateur, une histoire de la société marchande », publié aux éditions de La Découverte. Pourtant, j'aurais dû m'en douter, car Zola avait écrit « Au bonheur des dames » dans la seconde moitié du XIXe siècle. Les grands magasins, eh oui, les grands magasins. L'auteur prend aussi bien en compte comment les classes sociales ont eu progressivement accès à cette société marchande et comment elle s'est généralisée à toutes les classes, soit de façon calculée ou par des phénomènes décrits dans le livre. Des mécanismes anciens qui pour certains sont toujours présents, comme par exemple cette envie de vouloir paraître dans le coup ou montrer autour de soi que nous avons un statut social bien supérieur à celui auquel nous sommes assignés. Du moins, pour certaines personnes, ne généralisons pas non plus. De plus, l'auteur nous montre comment, en actionnant des facteurs psychologiques, la société marchande harponne la consommatrice et le consommateur sans que celle-ci et celui-ci ne s'en rendent pas vraiment compte. C'est un ouvrage bien sourcé, d'une lecture facile à portée de toutes et tous. Même s'il aborde différents champs comme l'histoire, la sociologie, la psychologie, je ne peux que vous recommander la lecture de ce livre très instructif, très pédagogique pour avoir un regard plus précis sur la fabrique d'une consommatrice et d'un consommateur. Je vous donne donc les références de ce livre, La fabrique du consommateur, une histoire de la société marchande, l'auteur Anthony Galuzzo, maître de conférence à l'université de Saint-Étienne, édition La Découverte, décembre 2022, 239 pages, le prix 12 euros que vous pouvez commander à les librairies Publico. Je repasse la parole à Francis.
Effectivement, c'est un livre tout à fait intéressant parce que on s'aperçoit quand même en gros en le lisant qu'on est quand même pas mal manipulé. Et on est pas mal manipulé, ben justement, en ces temps estivaux, et oui, les vacances, mais on pourrait peut-être en profiter de ce temps estival pour l'utiliser pour des lectures plus douces, parfois champêtres ou relatant des scènes de rue. Alors, ben écoutez, je vais parler d'une nouvelle collection. Les éditions L'Échappée nous réservent toujours de très belles surprises. Et nous avons présenté le livre Séverine l'insurgée en décembre 2022 avec un entretien avec les deux co-autrices du livre, ou encore le numéro 2 de Bras Zéro qui est une mine, et puis enfin un article qui annonçait une nouvelle collection Paris perdu. Eh bien, Paris perdu, voilà. L'auteur disait « Je mettrai volontiers en valeur l'article sur le Paris perdu, je cite le chapeau. Si les transformations de Paris étouffent nos souvenirs, si la ville populaire n'est plus, quelques écrivains que l'on serait tenté de considérer comme une famille littéraire nous racontent ce que furent jadis la Mouffe, la Maube, la Mouffe, la Mouffetard, la rue Mouffetard, la Maube, le quartier Maubert, les Halles, la rue de Lappe, Saint-Germain-des-Prés, le Topol, le Sébastopol, le boulevard Sébastopol, et les Troquets qui les jalonnaient. Un tour d'horizon de cet univers où les habitants, eux aussi, en pinçaient pour les formules bien balancées. Alors, on va retrouver dans cette collection Fallais, Yonnais, Ardelais, Fargue, Léon-Paul Fargue, bien sûr, Dabi, dans la lignée de François Villon. Et en 2023, on a cette collection. Les deux premiers titres ont été un petit peu décalés, c'est-à-dire qu'initialement, c'était un bouquin de Paul Guimard, La rue du Havre, et un autre, Le vin blanc de la Villette, de Jules Romain. Ça va venir, rassurez-vous. Mais là, nous avons deux titres qui sont assez intéressants. C'est tout d'abord un ouvrage d'André Varnaud avec une introduction de sa fille Janine, le titre « Les plaisirs de la rue ». Alors, c'est le Paris populaire. L'art de flâner, un côté Léon-Paul Fargue, vous voyez, le piéton de Paris. Alors on découvre des activités disparues, comme le marchand de peau de lapin, le photographe de rue. Et les pages sont merveilleusement illustrées par des dessins de Varnaud lui-même, dont certains rappellent Valoton, d'autres Poulbeau, vous savez, les petits mômes de Montmartre. Et nous voilà au marché aux puces, la foire à la ferraille, boulevard Richard Lenoir, ou... La foire au jambon. Vous découvrirez d'autres qui ont disparu. Carco n'est pas loin, surtout quand il s'agit de souligner combien Montmartre est mort. Livré aux touristes, il était déjà livré aux touristes en 1920. Alors aujourd'hui, la place du Tertre, n'en parlons pas. C'est vraiment un spectacle digne de tenter ceux qui aiment Paris. Nous faisons partie de ceux qui aiment Paris, jusque dans les détails les moins connus de son pittoresque. Le passé de Paris, ses fêtes, ses bals populaires, le temps du carnaval, bien oublié, avec la descente de la Courtille. Alors là, la descente de la Courtille, moi j'ai découvert complètement qu'en fait la descente de la Courtille, c'était la rue de Belleville. Et Milord Larsouille n'est pas loin. Oh, vous irez, vous verrez. Un joli charme désuet qui donne envie de se promener dans Paris. Et n'oublions pas le talent artistique de Varnaud qui valorisera et Montmartre et Montparnasse en créant le concept d'art vivant. Cette notion d'art vivant, nous en avions parlé avec Mathieu Lebal lors de notre émission de fin janvier de 2023 pour la présentation de son livre « Montparnasse, quand Paris éclairait le monde », publié chez Albin Michel et justement préfacé par Janine Varnaud. Soulignons que très récemment, Mathieu Lebal, pour ce livre, a reçu un prix vraiment de qualifiant son travail pour Paris. Le second ouvrage, un roman d'Eugène Dabi, « La zone verte ». Alors, vous connaissez au moins le titre du plus célèbre des livres d'Eugène Dabi, Hôtel du Nord. Ah oui, publié en 1929, Dabi est l'homme du 18e arrondissement. Il étudie le dessin à l'Académie de la Grande Chaumière, mais ce qu'il aime, c'est le monde, le Paris populaire. Il cherche l'authenticité, il se lie à l'école prolétarienne de Poulaille, Henri Poulaille, on retrouvera aussi Michel Ragon plus tard dans ce mouvement, et développera des écrits très éclectiques. Mais il n'y a pas que le Paris des boulevards et des ruelles. Ce qui attire Dabi, c'est aussi cette zone à 50 km de Paris, cet ailleurs qui pourrait s'appeler la vallée de Chevreuse, qui pourrait s'appeler le Vexin. Et bien justement, son héros, Le Guen, peintre en lettres, se rend dans le Vexin, près de Mantes, sur la route de Chars. Il cherche du muguet, trouve du travail, et c'est la rencontre entre le monde urbain, les ouvriers, le syndicalisme, le 1er mai, un monde encore rural, avec ses contraintes, ces hypocrisies, il faut bien le dire, ces aspirations, ces rêves quant au mythe parisien. Et quand on relit les dialogues, on a l'impression d'entendre ce Paris populaire et cet échange entre le monde urbain, le monde rural. Oui, c'est une forme de choc des cultures. Là où aujourd'hui, nous sommes dans une rurbanité sans forme. On découvre dans le livre la vie des années 20, les ouvriers, le populo qui va au Bois de Melon, parce qu'il n'est pas loin, il n'y a pas de congé payé, donc on va juste à côté. Et vous goûterez le retour de Le Guen vers Paris, à travers la banlieue, celle de la première couronne. Et de très belles pages, empreintes d'un humanisme profond. Vraiment, on attend avec impatience les prochains livres dans cette même collection qui nous montre un Paris et une région d'Île-de-France qui a beaucoup de charme. Alors, André Varnaud, Les plaisirs de la rue, Eugène Dabi, La zone verte, collection Paris perdu, aux éditions L'Échappée, en 2023. Et en attendant notre amie qui est Laureline Fontaine, écoutons un peu Mouloudji, Le long des rues de Paris, Frédéric.
Le long des rues de Paris, de Paris, si jolie, mon enfance traîne le jour et la nuit. Le long des rues de Paris, où je vis, mon enfance pleure le jour et la nuit. Je revois l'enfant blême au canal Saint-Martin, voler tout ce qui traîne à portée de ses mains, et au faubourg du temple, avide de gros sous, vendre bananes oranges pourries pour des gros sous. Le long des rues de Paris si jolie, ma jeunesse traîne le jour et la nuit. Le long des rues de Paris où je vis, ma jeunesse pleure le jour et la nuit. J'ai traîné les pavés sous les pluies de la guerre. J'ai connu les naguères où mes amis sont restés. Amoureux des étoiles, des filles et des cœurs, j'ai cassé ma fringale au galet du bonheur. Le nom des rues de Paris, et mon Paris si joli, toute ma vie traîne le jour et la nuit. Le long des rues de Paris, mon Paris où je vis, toute ma vie pleure le jour et la nuit. Le long des rues de Paris si jolie, mon ombre éblouie reviendra flâner. Le long des rues de Paris, où je vis, mon ombre éblouie reviendra sans bruit.
bien, vous êtes sur Radio Libertaire, vous écoutez l'émission Au fil des pages. Nous essayons tous les 15 jours de vous faire partager des livres qui nous donnent à réfléchir, qui nous ouvrent sur des questions de société, des livres qui reflètent l'histoire, l'histoire populaire. Et là, eh bien, nous écoutions une chanson de Mouloudji, Le long des rues de Paris, qui correspond assez bien à l'ambiance que j'ai évoquée sur la collection Paris perdu, et on attend avec impatience les prochains ouvrages de cette maison d'édition qu'on aime beaucoup. Et à la rentrée, nous aurons le plaisir, au mois de septembre, nous aurons le plaisir de rencontrer l'auteur, je ne vous dis pas encore qui, l'auteur d'un livre sur la jeunesse de Michel Ragon. Frédéric, j'ai l'impression que nous avons Laureline en ligne. Tu peux... Allô, Laureline ?
Oui.
Oui, bonjour. Bah, c'est gentil de nous avoir rejoints. On est vraiment pile poil, c'est parfait. Donc, vous êtes professeur de droit public et constitutionnel à la Sorbonne Nouvelle. Et vous animez un blog... Pardon ?
Oui, c'est ça.
Donc, vous animez le blog ledroitdelafontaine.fr. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'ailleurs sur ce blog ledroitdelafontaine.fr?
On peut trouver pas mal de choses. Alors, on peut trouver presque tout ce que j'écris.
Bon.
Voilà, que ce soit dans des revues académiques, dans des livres ou dans des journaux. Voilà.
Alors, depuis quelques mois, vous participez à de nombreux débats dans différents médias et institutions sur la grande question de la constitutionnalité de la loi et du rôle du Conseil constitutionnel. En effet, particulièrement en avril-mai, le débat public a porté sur le projet de loi relatif aux retraites et il y a eu bon nombre d'intervenants qui espéraient une décision du Conseil constitutionnel destiné à rappeler les principes d'une république sociale. On connaît la suite. Vous avez été surprise de cette décision ?
Pas du tout. D'ailleurs, beaucoup de personnes m'ont demandé comment est-ce que j'avais pu anticiper à ce point la décision, puisque j'avais dit qu'il était très 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 peu probable qu'il y ait une censure. Que tout au plus le Conseil invaliderait ce qu'il appelle les cavaliers sociaux. Donc c'est exactement ce qu'il a fait. Mais pour une très très bonne raison, c'est que quand on connaît un peu le fonctionnement du Conseil constitutionnel, quand on regarde un peu ce qu'il a fait, alors il n'y avait pas du tout de possibilité a priori qu'il parle de la République sociale, parce qu'en fait il n'en a jamais parlé depuis qu'il existe. Donc il ignore complètement ces dispositions de la Constitution. Et puis, sur la question de la forme et de toutes les procédures dont on a dit qu'elles n'étaient pas conformes à la Constitution pour faire adopter cette loi, là, c'était un autre aspect de la jurisprudence du Conseil qui était en jeu. L'aspect qui consiste pour le Conseil à souvent quand même, très, 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 très souvent, en fait, la majeure partie du temps, à valider ce que fait le gouvernement à travers le Parlement.
Alors, est-ce qu'on pourrait présenter en quelques mots cette institution qui est issue de la Constitution de la Ve République ?
Ben oui, c'est une instance qui aujourd'hui regroupe 9 personnes, plus, c'est une anomalie française, les anciens présidents de la République qui en sont membres de droit, même si la réalité est qu'ils n'y siègent pas souvent. Actuellement, ni Sarkozy, ni Hollande n'y siègent. Mais donc, on a 9 personnes qui ont été nommées par le président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Ils en nomment 3 chacun. C'est comme ça depuis 1958. Et ces personnes-là vont, en principe, collégialement délibérer sur les lois qui leur sont soumises pour dire si elles sont conformes ou non à la Constitution. Alors, au départ... c'était simplement pour vérifier que le Parlement n'allait pas trop loin dans ce qu'il faisait et respectait les pouvoirs de l'exécutif. Donc ça, c'était la version de 1958. Et puis, à partir de 1971, le Conseil constitutionnel a dit « Bon, je vais faire un peu autre chose que ça, je vais aussi me permettre de vérifier que les lois sont bien conformes aux droits et aux libertés qui sont consacrées dans le texte constitutionnel. » Donc ça, c'était un moment très important, simplement... Il l'a fait de manière assez rare depuis 1971, même très très rare, et il a même, pour le coup, régressé dans sa jurisprudence protectrice depuis les années 90, et donc on peut dire que maintenant il laisse passer à peu près tout, comme on l'a vu dans toutes les dernières périodes, de période d'état d'urgence sécuritaire, période d'état d'urgence sanitaire, où le Conseil ne censure quasiment rien. Donc on peut se demander à quoi il sert.
Alors on le présente comme chargé de la de vérifier la constitutionnalité des lois, mais il a aussi d'autres fonctions par rapport aux élections notamment.
Oui, il est juge des élections nationales. Mmh. Ça veut dire qu'il veille par exemple, à la régularité d'une opération référendaire quand elle a lieu. Mmh. Il veille à la régularité des élections présidentielles et il contrôle aussi la régularité des élections parlementaires, qu'elles soient législatives ou sénatoriales.
Et je crois qu'il a des fonctions aussi sur l'aspect financier des élections présidentielles, notamment.
Alors, en fait, il regarde le travail que fait la Commission nationale des comptes de campagne, qui elle-même vérifie que la campagne se déroule conformément aux principes qui ont été fixés dans les lois, des lois qui ont évolué dans le cours de la Ve République et qui ont été un petit peu plus, on va dire, encadrantes des campagnes électorales. Et regardant le travail et le rapport fait par la Commission des comptes de campagne, peut dire si les élections se sont effectivement bien déroulées ou pas. Donc, de temps en temps, il annule une élection législative, mais dans une circonscription sur ce fondement-là. Et puis, il pourrait le faire pour les élections présidentielles aussi. Il y a un cas connu, celui de 95, voilà, qui est maintenant très connu, qui est vraiment sorti dans la presse, où les comptes n'étaient pas réguliers, s'agissant de deux candidats qui étaient arrivés respectivement deuxième et troisième du premier tour des élections présidentielles, ce qui aurait coûté pas mal d'argent aux 10 candidats. Parce que contrairement à ce qu'on dit, ça n'aurait pas fait annuler les élections présidentielles si le Conseil avait joué son rôle, mais il aurait pu demander une restitution, on va dire, de l'argent aux candidats Balladur et Chirac, mais il ne l'a pas fait, conformément à son travail de complaisance, on peut le dire, à l'égard du pouvoir exécutif.
Oui, je me rappelle des propos de Roland Dumas à cet effet, d'ailleurs. À partir du moment où on est dans ce mode de désignation et de contrôle, mais quelle indépendance, quelle impartialité peut-on attendre du Conseil constitutionnel compte tenu de son mode de désignation ?
Alors, je dirais que en lui-même, le mode de désignation est insuffisant à caractériser l'absence d'indépendance et d'impartialité des membres du Conseil constitutionnel. C'est surtout le fait qu'aucune règle n'est fixée quant aux personnes qui doivent être nommées. Je m'entends, le président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale ont une liberté entière pour la nomination des membres du Conseil, ce qui est une rareté dans le monde. On ne trouve cette rareté qu'aux États-Unis et en Suisse, qui par ailleurs ne suivent pas du tout les mêmes règles que nous. Mais tous les autres pays encadrent la nomination. C'est-à-dire que les autres pays disent il faut par exemple que les membres aient au moins une formation, par exemple, en droit. Et au moins une expérience significative d'une profession du droit. Éventuellement, il peut y avoir une variété dans la composition en disant il faut des juristes, mais pas que. Il y a tout un tas de possibilités. La France ne dit absolument rien. Et ça produit que les autorités de nomination nomment des anciens politiques, pour l'essentiel. Ce qui montre que nos autorités politiques n'ont pas du tout à cœur qu'existe en France une véritable justice constitutionnelle. Et ici, le terme de justice est important, puisque la justice, normalement, se caractérise par l'indépendance de ses acteurs, l'impartialité de ses acteurs dans l'administration de la justice, le respect d'un certain nombre de règles déontologiques, le respect du débat contradictoire, etc. Autant de choses qui sont complètement absentes du Conseil et du fonctionnement du Conseil constitutionnel.
Vous évoquez dans votre livre une rencontre, enfin un débat à l'Assemblée nationale, dans une commission de l'Assemblée nationale, où les parlementaires sont assez gentils, on va dire ça, à l'égard de certains ministres qui vont se retrouver membres du Conseil constitutionnel.
Oui, alors gentil, je ne sais pas si c'est le terme, mais disons qu'il y a une forme... lorsqu'on lit les débats ou qu'on les écoute, parce que maintenant ils sont retransmis aussi, il y a des vidéos. Alors il faut savoir que ce type de débat n'existe que depuis 2010. Avant, la nomination était vraiment purement arbitraire. Le président de la République nommait absolument qui il voulait sans contre-seing. Donc maintenant, il y a ces débats-là au sein d'une commission parlementaire, mais ça ne change pas grand-chose à l'arrivée, parce qu'en effet, se perçoit une grande connivence entre le nommé et les nommants. C'est-à-dire que, eh bien, on nomme un ancien collègue en qui on a toute confiance, parce que, voilà, on l'a fréquenté, on a travaillé avec lui, et donc on est un peu rassuré aussi par rapport à ce qu'il va pouvoir faire au Conseil constitutionnel, parce qu'on se dit, bah, en nommant un ancien collègue, eh bien, il y a peu de chances qu'on soit vraiment bousculé dans notre activité de législateur.
En fait, on est en pleine illusion démocratique. Hein. C'est une instance très politique. Et vous donnez même le sentiment qu'il sert à habiller de droit une décision politique.
Oui, alors, ça, c'est une question assez délicate. Ce que je dis souvent, c'est que les décisions du Conseil constitutionnel, en vertu de la Constitution, pour le coup, font droit. Et ça, c'est comme ça. Néanmoins, au regard du cadre dans lequel il intervient, puisqu'il vient parler de la loi, soit qu'elle vienne d'être adoptée récemment, soit qu'elle a été adoptée de manière plus ancienne, eh bien, ça rend évidemment sa décision politique, dans le sens où c'est un impact politique. Donc ça, oui. Mais ça va encore plus loin. Parce que c'est le principe normalement même de la justice constitutionnelle. C'est en fait d'être un contre-pouvoir de droit à une action politique. Et ce contre-pouvoir de droit, il ne vient pas de nulle part, puisque c'est l'idée que la Constitution fixe des limites à l'exercice du pouvoir. Pourquoi ? Pour ne pas que le pouvoir soit arbitraire. Si la justice constitutionnelle ne se dit pas en droit, donc elle se dit en pure politique et ça ne sert plus à rien et donc il n'y a plus de contre-pouvoir. Et donc c'est bien la problématique, parce que si ça entre dans le jeu politique, forcément, normalement la décision, elle doit être rendue en droit. Et là commencent les problèmes, parce que, comme je le disais, sa décision fait droit. Mais moi je considère que ce n'est pas parce que sa décision fait droit qu'il fait du droit. Et en effet, souvent il tord les concepts. Il les manipule complètement. Alors, parfois, un véritable juge le fait aussi. Mais au moins, il argumente solidement. En général, on lui demande de le faire, ce que ne fait pas du tout le Conseil constitutionnel.
Oui, vous relevez d'ailleurs qu'un certain nombre de ces décisions sont assez faibles, il faut bien le dire, sur le plan juridique.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, à la fois parce qu'en effet, il n'y a pas du tout d'argumentation, mais même parfois, il y a des fautes de droit. Alors, c'est vraiment le cas sur la dernière décision du 14... Enfin, c'est pas sa dernière décision pour le coup, mais sur la décision que l'on connaît bien maintenant du 14 avril sur les retraites. Là, il commet, par exemple, une très, très grosse erreur de droit que peu de juristes ont souhaité relever, d'ailleurs, de manière assez étonnante, mais en assimilant, sans aucune argumentation, ce qu'il appelle les mesures qui ont un effet sur les finances de la sécurité sociale, qui ont un effet financier, et les mesures de financement. Ce qui est la base, normalement, de n'importe quelle personne qui travaille, même dans une commune, de savoir que ça n'est pas du tout la même chose, une mesure de financement et une mesure qui a un impact sur les finances, parce qu'à ce compte-là, toutes les mesures ont un impact sur les finances, parce que presque rien aujourd'hui qui soit décidé n'a de... n'a pas d'impact sur l'argent. Ça coûte toujours de l'argent. Bon. Et en fait, en assimilant les deux, sans expliquer pourquoi, ça lui permet une chose très importante, ça lui permet de dire que tout ce qui a été adopté dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale, eh bien, pouvait effectivement être adopté sans passer par le vote du Parlement et notamment de l'Assemblée nationale. C'est ce qui s'est passé, puisque l'Assemblée n'a pas voté le texte, ni en première, ni en dernière lecture. Et donc, en faisant ça, en faisant sciemment cette erreur de droit, parce que je pense que c'est sciemment, du coup, ça lui permet effectivement de donner à sa décision, non pas une coloration politique, parce qu'elle l'avait forcément, mais de lui donner la coloration du faux droit, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en droit, normalement, il n'aurait pas dû décider ça.
Donc alors, il y a cet élément, et puis il y a aussi un autre point, c'est que on a le sentiment que au-dessus du Conseil constitutionnel, il n'y a rien.
Alors ça, c'est, vous savez que c'est une controverse très ancienne qui date des années 30, sur qui va garder le gardien. Voilà. Alors je dis qui date des années 30 s'agissant de la justice constitutionnelle, mais bien sûr elle est beaucoup plus ancienne, cette problématique sur qui va garder le gardien. Alors il y a quelque chose de nouveau ces derniers temps, c'est que on a décidé, enfin certaines associations décident de porter la question du Conseil constitutionnel devant des instances internationales, ce qui n'était pas le cas auparavant. Il y a par exemple une décision qui date d'avril 2022 qui a été porté devant le comité d'Aarhus des Nations Unies, ce comité qui a pour objet d'appliquer la convention d'Aarhus relative à la question environnementale. Une association a dit que la décision n'a pas été rendue selon les apparences nécessaires de l'impartialité, ce qui d'ailleurs est totalement exact, puisque cette décision a été rendue en présence d'une personne et avec la voix d'une personne qui, par ailleurs, avait été impliquée dans la loi, impliquée directement, hein, puisqu'elle avait adopté la circulaire d'application de la loi, qui était soumise à l'examen du Conseil. Donc il y a ce type d'action qui ne se faisait pas avant, qui commence à émerger. Je sais que se prépare aussi quelque chose devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais en droit national, effectivement, il n'y a rien au-dessus du Conseil, et c'est pour ça qu'il faudrait exiger de lui beaucoup plus de garanties qu'il n'en a aujourd'hui.
Alors que le Conseil d'État, par exemple, au-dessus de lui, on peut penser à la Cour européenne des droits de l'homme.
Oui, qui ne s'est pas privé d'ailleurs souvent de sanctionner le Conseil d'État, mais elle n'a jamais osé le faire s'agissant du Conseil constitutionnel, mais aussi parce qu'elle a eu très très peu de tentatives en ce sens. Parce que le Conseil était quelque chose de très méconnu, d'une part, et en qui, je dirais, beaucoup d'avocats avaient confiance. Et ils sont en train de découvrir qu'ils n'auraient pas dû.
Et comme vous le disiez tout à l'heure, depuis une décision de 71, là, sur la liberté d'association, bon, le Conseil constitutionnel passe pour un défenseur des libertés publiques. Pourtant, son comportement lors de la crise sanitaire, les états d'urgence laissent rêveurs, justifiant toute mesure limitant les libertés avec des formules elliptiques, des atermoiements. Quel est votre sentiment là-dessus ?
Oui, alors je suis assez d'accord, à ceci près que peut-être finalement la question des états d'urgence n'est pas suffisante pour faire ce constat, parce que spontanément vient à l'esprit de chacun que finalement l'état d'urgence justifie des mesures beaucoup plus restrictives des libertés, et il y a une forme, on va dire, d'acceptabilité de ce que fait alors le Conseil constitutionnel. Ça arrive dans le même sens que tout le monde, disant finalement c'est l'état d'urgence, donc on peut exceptionnellement admettre quelque chose. Alors c'est vrai d'une certaine manière, mais d'un autre côté on peut se dire que la multiplication des états d'urgence fait que c'est une théorie bien connue, hein, on devient un état d'urgence permanent, et donc ça repose le problème général des libertés. Mais ce qui est intéressant, peut-être, c'est de voir tout ce qui se passe hors ces périodes-là, où toutes les lois qui sont adoptées, et elles sont nombreuses jusqu'à la dernière loi sur les Jeux Olympiques de 2024, qui pose des restrictions très très importantes des libertés individuelles et qui ne sont pas sanctionnées par le Conseil constitutionnel. Toutes les lois sur le renseignement depuis plusieurs années, toutes les lois sécurité-liberté et d'autres, eh bien, font passer énormément de mesures dont on ne se rend pas forcément toujours compte dans un premier temps. Mais le Conseil, de ce point de vue, je l'appelle la passoire. C'est-à-dire c'est une véritable passoire, hors même contexte d'état d'urgence. Et ça me semble peut-être encore plus important. Je peux peut-être citer une décision qui me semble très très grave, même si elle ne concerne pas le territoire métropolitain, puisqu'elle concerne Mayotte. C'est une décision qui date de novembre 2022, et c'est une décision qui, en fait, remet en cause un principe qui est fondamental depuis le XXe siècle, qui est que la liberté est la règle et la restriction l'exception, puisqu'il renverse complètement la chose en disant que finalement, sur ce territoire-là, les autorités de police n'ont pas à avoir de limites quant, par exemple, au contrôle d'identité qu'ils peuvent faire. Alors que normalement, c'est une opération encadrée qui doit avoir des limites. Là, sur le territoire de Mayotte, le Conseil dit non, mais finalement, c'est pas grave, pas de limites, ni en termes de temps, ni en termes de durée. Donc, c'est-à-dire que c'est un territoire de non-droit, en quelque sorte. Et en plus, il le justifie exactement comme se justifiait il y a plusieurs décennies le droit colonial, le code noir, qui se justifiait donc sur les spécificités du territoire. Et il reprend exactement la même argumentation. Donc je ne suis pas certaine qu'il faille se réjouir de ce type de décision et de raisonnement.
Et puis j'ai le sentiment que les lois dites d'exception deviennent des lois de droit commun, c'est-à-dire qu'on ne revient pas en arrière. Les outils restent encore en place, même si on ne les utilise pas pour le moment.
Les outils, alors certains outils restent en place, et lorsque les états d'urgence sont clos en quelque sorte, d'autres lois viennent ensuite, des lois ordinaires, qui ne sont pas des lois d'exception, qui viennent reprendre en effet ce qui a été dans un premier temps fait en période d'état d'urgence. Ça a été assez largement décrit par pas mal de chercheurs, qui montrent que depuis une quinzaine d'années, tout le droit d'exception s'est ordinarisé en quelque sorte, de telle sorte que effectivement il peut du coup, parce que ça instille une certaine tonalité aussi dans la société, donc ça fait qu'il peut venir à l'esprit de certains préfets de s'appuyer sur une loi antiterroriste pour interdire les casserolades.
On l'a vu récemment.
Voilà, on l'a vu récemment. Alors que bon, effectivement, c'était carrément un détournement de procédure. Oui. Mais comme la tonalité se diffuse, en disant finalement, les instruments se normalisent et pourquoi pas les utiliser.
Et puis, on interdit des manifestations, on interdit l'affichage d'un certain nombre de livres et on ordonne la fermeture de librairies. Vous avez vu que le tribunal administratif de Nice a rendu une décision qui a condamné l'État. Enfin, on a le sentiment que l'État, de façon générale, et pas que le Conseil constitutionnel, mais que l'État prend des mesures attentatoires aux libertés publiques en se disant, eh ben c'est pas grave, de toute façon on aura le juge qui interviendra, mais ça sera plus tard, donc on aura le temps.
Oui, c'est vrai que les autorités administratives, de police et gouvernementales, depuis quelques temps, comptent sur la montre. En effet, ils jouent la montre systématiquement en se disant, on fait ce qu'on sait qu'on n'a pas le droit de faire, on sait que ça a un effet sur le moment, et ça suffit. Et ensuite, le juge peut toujours intervenir plus tard, c'est déjà fait. Et c'est vrai que cette manière de faire traduit vraiment complètement une nouvelle manière de penser la fonction gouvernante.
On est dans une logique de détournement de pouvoir, non ? Sur le plan juridique, recours pour excès de pouvoir ?
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que malheureusement, souvent, là, vous citez le jugement du TA de Nice, mais malheureusement, très souvent, le juge valide un peu ce type de oui. raisonnement. Moi, je l'ai repéré, ça a été très, très fort, à partir du premier état d'urgence sécuritaire, ce que moi j'appelle sécuritaire, quand les militants écologistes avaient été assignés à résidence pour le sommet de la COP 21, je crois, sur le fondement de la loi de 1955 sur l'état d'urgence, qui était à ce moment-là mis en œuvre sur le territoire, pour lutter contre les attentats terroristes islamistes. Et on a utilisé cette loi pour assigner des militants écologistes qui voulaient se rendre à la COP 21 et faire un peu le bazar, pour être clair. Et le juge, donc c'était le Conseil d'État à l'époque, et de manière tout à fait étonnante, en fait, a validé cette possibilité en disant explicitement que, puisque la procédure existait, elle n'avait pas besoin forcément d'être... Elle n'avait plus besoin, parce qu'avant, c'est ce qu'il disait, d'être en rapport avec les finalités qui sont poursuivies par la loi. Mmh. Et donc ça change complètement le système de droit. Parce que si on peut utiliser un instrument sans se soucier de la raison pour laquelle cet instrument existe, ça ouvre énormément de possibilités. Alors que, jusqu'à présent, il y a des grandes jurisprudences dans les années 60, notamment du Conseil d'État, où il explique très clairement que c'est un détournement de procédure que de se servir, par exemple, du pouvoir de saisir les journaux pour un autre but que celui pour lequel ce pouvoir avait été donné à l'autorité administrative.
Oui, ça me rappelle des cours de droit, ça.
Voilà, exactement. Détournement de procédure, voie de fait, etc. C'était très établi. Or, le juge, aujourd'hui, le Conseil d'État, mais le Conseil constitutionnel a fait la même chose aussi, renverse cette manière de faire. Et donc, il y a une forme de convergence des raisonnements qui va dans un sens qui n'est pas celui de la protection des droits et libertés.
Alors, ça va être intéressant de voir. Alors là, c'est le juge, c'est le Conseil d'État qui est saisi sur le décret concernant les soulèvements de la terre, de voir comment le Conseil d'État va-t-il statuer.
Oui,
vous êtes de droit public aussi, hein.
Non, mais voilà, j'avoue que j'attends aussi cette décision. Parce que ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que les arguments qui sont donnés par le gouvernement ne sont pas en eux-mêmes totalement contraires au droit. Mais quand on les regarde, tout de suite on se dit, pourquoi est-ce que l'association Greenpeace n'a pas été dissoute avant, par exemple ? Mm-hmm. Parce que elle a eu quand même beaucoup de modes d'action très très invasif de la liberté d'entreprendre, du droit de propriété, plein de choses. Donc ça aurait pu justifier. Mais sauf que, c'est pour ça que je vous dis, il y a le droit et puis il y a une tonalité qui fait qu'on va ou non dans un certain sens. Donc les arguments qui sont utilisés aujourd'hui, en fait, auraient pu l'être déjà depuis très longtemps pour dissoudre plein d'autres mouvements. Mais ça n'était pas le cas parce qu'on était dans une stratégie en quelque sorte libérale et le politique était dans l'idée d'un certain libéralisme, est-ce que visiblement il n'est plus du tout dans cette idée-là. Donc du coup il se réapproprie des instruments juridiques pour leur donner peut-être une autre un autre but. C'est un instrument de gouvernement aujourd'hui, le droit.
Vous montrez là que le débat qui était perçu comme étant essentiellement juridique, et pas simplement que pour la loi sur les retraites, mais sur toute une série de textes importants, là, depuis, et d'ailleurs depuis plusieurs quinquennats, parce qu'on mise tout là sur le quinquennat actuel, mais bon, c'est vrai qu'il est assez parlant, mais il y a eu d'autres présidents qui ont eu une politique à peu près identique, même si c'était leur gouvernement qui agissait, alors que le débat, il est politique, il n'est pas juridique.
C'est les deux, c'est-à-dire c'est là où on voit quel est le rôle du droit. Et moi, je trouve ça. Je trouve que c'est une bonne opportunité de parler du droit et de son rôle dans la société et effectivement de son alliance avec le politique. Le droit, c'est pas quelque chose d'extérieur qui nous tombe dessus comme une sorte d'objet neutre qu'on maîtriserait pas bien. Le droit, il est toujours fait de toute façon, en tout cas dans nos sociétés contemporaines, par les gouvernements et parlements qui se succèdent au pouvoir. Ils font et défont le droit en permanence. Simplement, ce qu'on peut noter, en effet, c'est que on était avant dans une forme de respect de ce qui avait déjà été fait, et ensuite dans une logique d'amélioration. Or, depuis 30-40 ans, on est vraiment dans une logique inverse de destruction de ce qui a été fait. On défait toujours ce qui a été fait et on le défait aussi souvent que possible. Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, on sent que on passe de cette idée que le droit, quand même, il a une vertu libérale et il s'impose à nous-mêmes quand on est gouvernant, à une logique. Le droit, c'est notre instrument et on peut en faire ce qu'on veut finalement. Mmh. Et ça change tout. Donc ça remet un peu les pendules à l'heure, oui, par rapport à ce qu'on peut attendre du droit. Mais du coup, ça implique une vigilance supplémentaire très, très, très importante. Je crois qu'il ne faut pas du tout négliger ça.
Oui, tout à fait. Alors, l'année universitaire se termine, là. Vous avez d'autres projets d'écriture ?
Absolument.
Ah !
Oui, oui. J'ai un projet d'écriture sur le rôle d'une constitution, tout simplement, sur ce qu'on peut attendre. Une constitution.
Vous allez nous faire la sixième ou bien la septième ou bien c'est autre chose.
Ben ça, je ne sais pas, mais je vais essayer de mettre au clair ce qu'on peut aussi ne pas attendre d'une constitution. Je crois que c'est très important parce qu'on en attend souvent beaucoup trop de choses. De faire le lien entre constitution et justement et justice sociale, entre constitution et démocratie. Et j'essaye de montrer que les liens ne sont pas si évidents que ce qu'on pense. Donc pour essayer ensuite afin de se mettre au clair sur qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Pour construire notre avenir politique.
D'accord. Alors, on rappelle le titre de votre livre ?
La Constitution maltraitée, anatomie du Conseil constitutionnel, et c'est paru aux éditions Amsterdam.
Amsterdam, qui donc a fait plusieurs rééditions, j'imagine, parce que ça a dû bien fonctionner, là. Vous avez été au cœur du débat politique ces derniers mois. Ben, écoutez, on attend avec impatience votre prochain livre, et comme ça nous donnera l'occasion de vous réinviter. Merci en tout cas, Laureline.
Eh bien, merci à vous, c'est avec plaisir.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Nous allons désormais passer Va Pensiero du Cœur des Esclaves, concert Verdi. Thank you.
Oui, j'ai pensé que ça serait tout à fait pertinent de passer cet extrait du Cœur des esclaves de Verdi. Je rappelle que le peuple italien s'était levé contre quelqu'un dénommé Berlusconi, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, pour montrer sa protestation. Il serait bon que tout le monde montre sa protestation à l'égard de ce que nous vivons en ce moment. Voilà, depuis le début de l'émission, nous mentionnons rapidement des titres des ouvrages. Vous pouvez les retrouver sur les références, vous les retrouvez sur le blog du groupe Commune de Paris, et puis les livres, vous pouvez les commander chez Publico. J'aimerais vous parler d'un livre. Un peu, maintenant, c'est le troisième temps de l'émission, c'est le Varia, un moment d'histoire. J'aurais voulu vous parler d'un personnage un peu complexe, Marcel Sauvage. Son autobiographie a été éditée par Claire Polan et elle nous permet de traverser le siècle dernier et les milieux anarchistes, mais aussi d'autres milieux. Alors, les livres édités par Claire Polan ont l'art d'attiser la curiosité du lecteur. En l'espèce, l'ouvrage a pour titre « Ça manque de sang dans les encriers ». Dites donc avec un titre pareil. Ce sont les mémoires donc de Marcel Sauvage de 1895 à 1981. Qui est Marcel Sauvage? Un journaliste, un homme qui se perdit dans certains soutiens, un anarchiste individualiste. Évidemment, les mémoires ont toujours tendance à enjoliver les faits, les comportements de leurs auteurs. Sans doute, ceux de Sauvage n'échappent pas à ce constat, mais ils constituent un parcours passionnant dans la société française du XXe siècle. À nous de garder notre lucidité et notre distance par rapport à ces propos. Ceux de Marcel Sauvage. Celui-ci naît dans une famille populaire qui tient un temps à un café près du métro Berkampf dans le 11e arrondissement. Vous pouvez lire ces pages et comme un accent parigot vous revient en mémoire, un côté chanson réaliste à la Fréhel, la vie d'un gosse de Paris du côté de la Popinque, le quartier Popincourt après, quand il va se déplacer de Berkampf à Popincourt. Et puis c'est la déflagration de la guerre, celle de 14. Il est gazé au chlore, il reviendra des tranchées avec l'horreur de la guerre, de la tuerie. Et comme beaucoup d'anciens combattants, il s'affiche pacifiste. Et les pages consacrées à la vie dans les tranchées sont effroyables. C'est du vécu, d'où le grand débat sur le livre de Barbus, Le Feu, qui est davantage une œuvre littéraire que du vécu. Et là, je renvoie à un livre que j'avais commenté dans la rubrique des idées et des luttes sur le site du Monde Libertaire, un livre de Jean Norton Cru, Témoin, qui a été réédité en 2022 chez Agone. C'est aussi le début de ses fréquentations anarchistes. Il rencontre Armand, témoigne en sa faveur lors d'un procès et commence à écrire dans les revues anarchistes. Ainsi, dans Par-delà la mêlée, il affirme en 1917 « Nous répudions toute autorité parce que là où sévit l'autorité, il s'ensuit une griserie du pouvoir et sévit l'abus. C'est tout. » Un côté Louise Michel, vous voyez, impression d'entendre Louise. Il s'intéresse à la poésie, fréquente Pierre-Jean Jouve, Marcel Martinet, Hans Rinner, l'auteur du petit manuel individualiste. Il écrit dans La Forge, La Mêlée, Soi-même, et diverses revues anarchistes. La description du milieu littéraire de cette époque est passionnante. Il faut lire les pages consacrées aux conseils prodigués par son ami Max Jacob. Vous pénétrez dans les débats poétiques, vous abordez la littérature et la poésie cubiste, rencontrez Guillaume Apollinaire, et je cite Sauvage, « Quant à moi, je restais stirnérien et... pendant toute l'année 1919, je travaillais à réunir l'argent pour un brûlot libertaire qui devait s'appeler 1. » Comme je vous l'ai dit, ce livre constitue une promenade dans la vie littéraire du Paris des années 20-40. Nous voyons la naissance de la revue Action, alliant philosophie et art. Vous retrouvez André Salmon et des personnages de Montparnasse. J'ai parlé du livre de Mathieu Lebal tout à l'heure, il évoque largement Salmon. On reconnaît le style du journaliste dans son talent à dresser en peu de mots les portraits des acteurs de l'époque, des acteurs de la vie intellectuelle. Sandrard, Picabia, Satie, Damia, c'est passionnant. Et sa présentation du jury du prix Renaudot, jury dont il fut membre pendant de nombreuses années, fait écho au livre « Station Goncourt » d'Arnaud Vivian, dont j'ai parlé dans cette émission il y a quelque temps. Vous retrouvez Georges Charansol, des Nouvelles littéraires, Lucien Descaves, l'auteur du merveilleux livre « Les vieux de la vieille » sur les anciens communards, Max-Paul Fouché, un grand critique littéraire. Ce triste siècle est dense en atrocités. Et Marcel Sauvage dénonce les crimes durant la guerre d'Espagne. Puis c'est la Seconde Guerre mondiale, son départ en Tunisie. Et là, tout devient trouble dans cette période. Mais il était difficile de conserver un comportement en lien avec ses principes. Toujours est-il que Marcel Sauvage témoigne en faveur de Marcel Pucheux, ministre de l'Intérieur sous Vichy, au motif qu'ils furent condisciples au lycée de Beauvais, dans l'Oise. Pucheux sera fusillé en 1944, et au fil des pages, vous constaterez que les collabos ont toujours eu sous la main des cas de sauvetage de juifs, voire de soutien à la résistance, comme s'ils prévoyaient l'issue de la guerre. Je vous rappelle aussi un livre que j'avais commenté sur le procès Bousquet. Pour moi, l'intérêt essentiel du livre réside dans cette présentation de la société française de l'entre-deux-guerres, de sa vie culturelle, de certaines mouvances anarchistes, et je terminerai par une citation de Marcel Sauvage. « À 20 ans, peut-être, la vie profonde, la vie en soi d'un homme est terminée. Après, on se développe, on se débrouille, on tient, on joue. On circule, plus ou moins au milieu de ces illusions empaillées, elles ouvertes et immobiles. Il reste la poésie, Marcel Sauvage. » Marcel Sauvage, ça manque de sang dans les encriers, les mémoires 1895-1981, aux éditions Claire Polan en 2021. Frédéric, j'aimerais bien que nous passions, puisque nous avons le temps, une chanson de Michel Legrand, La valse des lilas.
Vous nous faites l'amitié de nous l'interpréter maintenant ?
Très volontiers, très volontiers.
On ne peut pas vivre ainsi que tu le fais, d'un souvenir qui n'est plus qu'un regret, sans un ami et secret qu'un peu de larmes pour ces quelques pages de mélancolie. Tu as fermé le livre de ta vie et tu as cru cœur des gens qui s'aiment. Tant que tournera le temps jusqu'au dernier printemps, le ciel aura 20 ans, les amoureux en auront tout autant. Wele ye lo ve lo, wede ye de lo ve.
de Waldo, il est.
Eh bien, voilà, le temps de la valse des lilas est écoulé et Dominique nous rejoint. Elle a eu beaucoup de mal pour nous rejoindre. Les romans de la vie, alors une femme étonnante présentée par Dominique, qui est tout aussi étonnante d'ailleurs dans ses choix. Je donne le nom de cette dame, Constance Debré. Dominique, es-tu là ?
Oui, je suis là.
Bon, alors, tu es sortie de tes cochons sauvages, etc. Oui. Là, qu'est-ce qui s'est passé, là ? Vous n'avez pas Internet ?
On a une panne d'Internet et de réseau toute l'après-midi, donc, ça va.
Tout fout le camp. Bon, oui. Alors, Constance Debré.
Alors, c'est une femme qui est née en 1972, qui a été avocate, mariée, mère d'un enfant. C'est la petite fille de Michel Debré, ancien Premier ministre du général de Gaulle, et du journaliste François Debré, parce que donc Michel Debré avait trois fils, dont deux qui ont très bien réussi, Bernard et Jean-Louis, et François Debré est celui qui a le moins bien réussi.
Enfin, très bien réussi, ça dépend de quel point de vue on se place.
Oui, oui, bon, enfin bon, dans leur fil de...
Et alors donc elle, c'est une avocate ?
Oui, alors elle a eu un concours d'éloquence en 2013, et puis donc jusqu'en 2020, elle a, disons, mené une existence bourgeoise, et puis elle a tout largué, chevelure, puisque je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, elle est complètement rasée, métier, mari, sexualité, famille, bon, donc c'est un changement radical.
Alors, c'est quel genre de livre ?
Alors, c'est un livre étonnant. Alors, après avoir raconté comment elle s'était débarrassée de son hétérosexualité dans Playboy, paru chez Stock en 2018...
C'est pas la revue, hein, c'est un livre, non ?
Oui, oui, c'est un livre, oui. Et de sa condition de mère dans Love Me Tender, publié chez Femme Larion en 2020, elle rencontre là, cette fois-ci, de la rupture avec toute sa lignée de grandes bourgeoises qui étaient propriétaires, qui étaient des grands politiques. Donc c'est vraiment le livre d'une transformation sociale à l'envers, d'un dépouillement et d'un refus de tout. Elle refuse le mariage, la fidélité, l'héritage, la propriété, la politique. Alors elle dit, je vous cite quelques phrases, pas d'argent, pas de maison, pas d'héritage. C'est conforme à ma philosophie de ne rien transmettre, pas même le nom. En finir avec l'origine.
Eh ben.
De toute façon, dit-elle, ce qui compte, ce n'est pas d'être de gauche ou de droite, riche ou pauvre, ce n'est pas être homosexuel ou hétérosexuel, ce n'est pas vivre dans une chambre de bonne ou un château, être propriétaire ou locataire, marié ou pas marié, on s'en fout complètement de ça. Être libre, c'est le vide, ce n'est que ce rapport avec le vide. Alors, elle dit aussi, bon là j'ai des doutes parce qu'elle dit, avec n'importe quel parent j'aurais écrit le même livre, avec n'importe quelle enfance, avec n'importe quel nom, je raconterais toujours la même chose. Bon, je ne sais pas.
Hein. Ah, qu'il faut se barrer, ce qu'elle dit, non, c'est ça?
Oui, avec n'importe quel parent, oui.
Bon, d'accord, bon, si bon. Sûr, bon, bah écoute, oui, en tout cas, c'est ce qu'elle affirme. Hein.
C'est, oui, oui. Ouais. C'est plus le côté étonnant, c'est pas forcément que j'ai adoré, mais c'est quand même, c'est une lecture à laquelle on n'est pas très habitué. Alors, elle explore la vie du père, dont la mort ouvre le texte, c'était un journaliste, François Debré, mort en 2020, 30 ans après son épouse, qui était mannequin, Mélis Ibanor Garé, qui était de Basque. Mmh. Alors lui, il a été reporter, mais grand opiumane, donc premier rebelle de la famille, hein, c'est lui qui a coupé le premier. Hein. Mais bon, il a été mis en examen quand même dans les affaires des emplois fictifs de la mairie de Paris, donc ça veut dire qu'il n'avait pas coupé entièrement.
Ah, il y a une filiation là quand même.
Hein. Ben oui, oui. Alors, la langue est très nerveuse, hein. C'est absolument pas le style de vie de Famille Jevouet ou Flaubert ou Maupassant qui ridiculisait les bourgeois. Mmh. C'est du langage parlé, hein. Tout est rejeté. Alors, on ne compte plus les « on s'en fout ». Alors, pas, la ponctuation n'est pas toujours bien mise. La grammaire est passée par-dessus bord. Elle dit « mes livres, c'est expliquer ce qu'il se passe ».
Alors, elle, style élégant, oui.
Oui, elle récuse tous les classiques, notamment Barthes, toutes les valeurs contemporaines, la bienveillance, la résilience.
C'est une expression orale, c'est un style vraiment oral.
Oui, c'est un style oral.
Je me rappelle de ce linguiste qui disait qu'il y avait deux langues françaises, la langue écrite et la langue orale. Ben là, on est dans de l'oralité, mais dans un livre. D'accord.
Oui. Hein?
Ben alors, il n'y a pas des incohérences?
Ah si, si. Alors, on sent que c'est une femme qui se cherche. Alors d'abord, elle connaît une errance domiciliaire, hein, mais bon, quand même dans les beaux quartiers, puisqu'elle est dans la rue de la Contresse
ou
Arles, et non pas dans des quartiers HLM ou des zones pavillonnaires de banlieue. Bon, elle va jusqu'à voler dans les magasins pour s'alimenter.
Bon, au bon marché ou chez Lidl?
Non, dans les petites épiceries.
D'accord.
Alors, il y a plein d'affirmations péremptoires dont le contraire est tout aussi vrai, d'injonctions, par exemple, tais-toi, mais après parle, tire-toi ou reste. Alors, les on s'en fout du pognon, des pauvres, de la lutte des classes, les ça ne sert à rien, le respect, la justice, la famille. Alors, bon, elle descend aussi la justice, le milieu qu'elle a bien connu. Ça n'a pas d'importance, l'enfance. Barthes, elle dit qu'il faisait des enculages de mouches. La littérature, elle dit que c'est elle. Hein, elle se propose d'être le héros nihiliste dont le monde a besoin. Bon. Et alors, elle reprend aussi, elle joue avec, elle dit mon nom et personne, elle reprend donc l'histoire d'Ulysse, hein. Mais pour elle, c'est une façon de dire non à tout, hein. C'est pas une ruse.
Oui, mais bon, c'est un livre à lire alors, dans ces conditions?
Oui, quand même, c'est original. Et puis, c'est l'inverse de beaucoup de livres qui sortent en ce moment, où on voit plutôt une ascension sociale qui débouche sur la honte, donc Annie Ernaux, Didier Ribon ou Édouard Louis. Ici, c'est l'inverse. Elle montre une descente sociale en flèche, mais voulue et assumée. Alors, il y a quelques moments un peu plus émotionnels. Par exemple, elle adore nager. Hein. Donc, nager, écrire, l'amour, c'est des techniques pour faire exister des choses et faire disparaître le reste. La vie est considérée comme un réglage ou des opérations de maintien de l'ordre contre le chaos. On voit qu'elle lutte contre un chaos intérieur. Hein. C'est pour ça que je nage, dit-elle. Elle veut démontrer qu'écrire, écrire comme on n'y comprend rien, semble un bon programme. Le doute fait du bien. Alors, elle ne voit plus son fils, puisque, évidemment, son mari a demandé à ce qu'elle n'ait plus la garde, hein, vu son errance. Hein. Alors, elle dit, peut-être que c'est un peu grave, peut-être que ce n'est pas vraiment grave. Un ancien détenu, puisqu'elle elle va quand même faire des conférences en prison, lui demande quoi faire de sa vie. Elle dit « je ne sais pas hein ». Et puis, donc c'est quand même un aveu un peu terrible. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une femme qui se cherche à travers les méandres de son histoire familiale, qu'elle cherche à refouler, mais en fait qui la rattrape.
Oui, c'est une interrogation dans un livre, et je trouve ça assez intéressant de s'interroger et de dire « j'ai peut-être pas la réponse ».
Oui. C'est ça, elle n'a pas de réponse.
Ouais, voilà. Alors, elle a sorti un autre ouvrage?
Oui, elle, tous les ans, elle publie. Donc, ça s'appelle Offense, Flammarion 2023. Je ne l'ai pas encore lu.
D'accord.
Mais je pense que c'est du même tonneau.
Alors, je crois que c'est le dernier livre que tu souhaitais nous présenter pour cette saison.
Oui, c'est ça. Donc bon. J'arrête et je reprendrai en septembre.
Donc tu reprends en septembre, t'as pas déjà l'idée de... Je t'ai apporté quelques livres la dernière fois que nous sommes
rencontrés. Oui, mais j'ai tellement d'idées, que j'ai... moi aussi c'est le chaos, il y a tellement de livres à lire qu'il faut que je fasse une hiérarchisation cet été.
Très bien.
Voilà.
Bon, bah écoute, bonnes vacances et puis on se retrouve en septembre. Merci Dominique.
Merci.
Allez, au revoir. Eh bien voilà, chers amis... quelques livres auxquels nous tenions. Nous souhaitions vous faire partager ce plaisir, cet intérêt, cette curiosité. Surtout, n'oubliez pas l'exposition dont nous avons parlé il y a 15 jours, l'exposition imprimée à la Bibliothèque nationale de France sur le site François Mitterrand jusqu'au 16 juillet. C'est terminé pour aujourd'hui dans Au fil des pages. Merci pour votre écoute, votre fidélité. Nous nous retrouvons le mercredi 12 juillet 2023 pour un festival de livres, mais il y aura deux ou trois livres au moins consacré à cet événement qui s'est déroulé aux alentours du 12 juillet, qui correspond tout simplement à l'épouvantable grande rafle du Veldiv. Et je souhaitais vous faire partager un certain nombre d'ouvrages sur le témoignage notamment d'une dame qui a subi ça dans cet événement dans sa chair, et puis aussi des résistants allemands. Vous verrez, le livre est tout à fait intéressant, la septième croix. D'ici là, bonne lecture, et l'équipe d'Au fil des pages vous souhaite évidemment ni Dieu ni maître, toujours avec Léo Ferré. À bientôt et au plaisir de partager.
Avec la peur qui tend la patte, le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre, et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître, le fardeau blême qu'on emballe comme un paquet vers les étoiles froide sur la dalle, et cette rose sans pétale, cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Ces voix que l'on dit de justice et qui poussent dans les supplices, et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service, cette procédure qui guette ce que la société rejette sous prétexte qu'ils n'ont peut-être ni Dieu ni maître, cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu.
me is filling. Silver sidewalks, lips so red, world so wide around my head. Wait.